Alors, je vais essayer, dans la demi-heure qui m'a été donnée, de ne pas vous donner la réponse aux questions que vous ne vous posez pas, mais de vous équiper pour écouter la réponse, les questions que vous posent les jeunes, et puis savoir comment les accompagner dans un questionnement qui est simplement la marque, la trace de leur croissance. Donc, les questions, c'est une bonne chose. C'est les questions sans réponse qui finissent par ne pas permettre à un jeune de se développer. Quelques éléments, ils m'ont été demandés de vous donner sur la question de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et d'abord, je voudrais vous parler du contexte dans lequel se pose cette question. On pourrait à tort considérer que c'est une question qu'on se pose depuis peu. Et cela parce que notre société est traversée par des grandes questions, que sont les questions hommes-femmes, que sont aussi les questions du mariage, qui ont secoué l'ensemble de la société l'an dernier. Certes, ce sont des questions actuelles et la proposition de l'Église permet, dans sa sagesse, de les éclairer d'un jour original. Mais ce n'est pas d'hier, ni même d'aujourd'hui, que l'Église s'intéresse à l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et donc, elle ne vient pas essayer de répondre à un problème que la société a. Elle continue d'éduquer dans l'amour des jeunes qui lui sont confiés parce qu'elle les aime. Deuxième chose, ces questions d'éducation affective, relationnelle et sexuelle se posent de manière originale aujourd'hui, mais elles se sont toujours posées aux adolescents. Vous l'avez entendu ce matin dans le témoignage de Paul, il a été adolescent à la fin du XXe siècle, mais pour ceux qui ont été adolescents au milieu du XXe siècle, même si les mots n'étaient pas exactement les mêmes, pour autant, ces questions, elles, étaient les mêmes. La question d'un adolescent, la question normale d'un adolescent, c'est qui je suis et qu'est-ce que je vais devenir ? Et donc, cette question-là, elle a forcément des résonances dans le corps de l'adolescent qui a une particularité, c'est qu'il change de manière extrêmement violente, extrêmement visible, même s'il continuera de changer, et la vieillesse aussi est le signe extérieur porté sur son corps. Autre chose encore, le contexte pastoral qui est le nôtre aujourd'hui et qui fait que cette question, si on est tous d'accord, et Monseigneur l'a rappelé ce matin, si on est tous d'accord, institutions ecclésiales, les différentes églises chrétiennes, mais aussi toutes les institutions et les groupes qui s'occupent de l'éducation pour dire qu'il faut absolument s'en charger de cette éducation affective, relationnelle et sexuelle, on a tous des moyens un petit peu différents. Et la question de la prévention est hélas une question qui a pris une ampleur telle qu'elle a remisé au second plan le reste des éléments qui nous sont posés dans les quatre lettres d'éducation affective, relationnelle et sexuelle, à tel point que si on caricature un tout petit peu les affaires, même dans notre responsabilité pastorale, eh bien, cette question est devenue un thème à traiter, alors un thème incontournable. Et l'ensemble des propositions qui sont faites aux jeunes par les services d'église, dans l'enseignement catholique, dans les aumôneries, dans les paroisses, mais aussi dans les mouvements et dans les communautés, eh bien, on s'intéresse à cette question et on s'y intéresse souvent en faisant appel à des partenariats, que ce soit par des associations dont certaines seront présentes et vous seront présentées tout à l'heure, mais aussi à des ressources locales, un parent, un infirmier ou une infirmière scolaire. Voilà, on le fait venir, on le met devant des jeunes, on les fait venir, on les met devant des jeunes et puis voilà, la question est réglée. J'attire votre attention sur le fait qu'aucune méthode ne fera le boulot à votre place. Et comme l'a exprimé ce matin Monseigneur Hayé, il s'agit bien d'intégrer cela dans un projet global d'éducation. Et donc l'éducation affective, relationnelle et sexuelle n'est pas un thème à traiter parmi d'autres, après l'argent et avant l'avenir. Mais il s'agit que l'ensemble de la proposition irrigue l'ensemble de votre projet pastoral, l'ensemble des activités, l'ensemble de la réflexion que vous menez avec et pour les jeunes. Donc, dans cette perspective-là, l'association avec des gens qui ont développé par ailleurs et depuis longtemps une pédagogie spécifique, des compétences, des outils, est tout à fait bienvenue. Mais elle ne peut suffire à elle-même. Il faut absolument l'intégrer à un projet plus global et plus général, et notamment un projet de formation des acteurs. Je vais donc, en quelques minutes, m'intéresser aux quatre lettres, tout simplement, de l'EARS. pour dire la première chose qu'il ne faut pas surdéterminer la dernière des lettres. Il ne faut pas réduire l'éducation affective, relationnelle et sexuelle à une éducation sexuelle qui, au pire, deviendrait simplement une prévention de pratiques sexuelles. Ces quatre lettres sont apposées et non plus comme un élément de gradation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord, à l'âge de l'enfance, une éducation affective à mener qui se transformera au début de la puberté par une éducation relationnelle qui, on n'a pas le choix, passera forcément par une éducation sexuelle. Il ne s'agit pas de cela. L'éducation sexuelle, elle se pose dès l'âge de l'enfance, évidemment avec des moyens adaptés en fonction des questions propres à l'enfance. L'éducation affective, l'éducation relationnelle, se pose à chaque âge, y compris après l'âge du jeune adulte, mais ça, ce n'est pas de notre sort ici aujourd'hui. Mais donc, c'est une éducation, je dirais, permanente, une réflexion permanente à mener entre acteurs, éducateurs, et avec, comme premier partenaire, et j'y reviendrai plus tard, les parents. Premier partenaire de l'acte éducatif posé avec et pour leur enfant, au minimum dans l'information qui leur est donnée de ce que vous faites, du projet qui est le vôtre avec eux. Je ne veux pas dire là qu'il faille absolument détailler, voilà, on va les prendre tel jour, on va leur dire ça à telle heure avec telle personne, si vous voulez, voilà le livret, vous pouvez lire tranquillement chez vous. Ça, c'est de l'information. Première chose que je pose, c'est associer les parents à l'intégralité de la démarche, non pas parce qu'ils seraient défaillants, mais parce que ça les concerne au premier chef et qu'ils en sont les relais. Et que vous-même, vous recevez de la part des parents, quelle que soit la figure parentale qui est la réalité des jeunes qui vous sont confiés, vous recevez en fait de leur part une forme de délégation à l'éducation que vous leur proposez. Il est donc absolument essentiel de pouvoir y associer les parents, encore une fois, quelle que soit la propre histoire de ses parents et quelles que soient les difficultés relationnelles qui existent entre un adolescent et ses parents. Et là, certaines propositions éducatives qui vous seront proposées essayent de mettre en valeur ce rôle particulier qui peut exister entre un parent et son enfant à cet âge-là, au début de l'adolescence. Éduquer, ça nécessite certains critères qui sont incontournables. Le premier critère, c'est le temps. Il ne faut pas confondre informer et éduquer. L'information peut se faire sur quelques heures. Mais l'éducation consiste en un faisceau d'éléments, de rencontres qui prend du temps, qui se déroule et se développe dans le temps de manière structurée à des moments, dans des conditions qui sont prises en charge et qui sont variées. Donc ne croyez pas qu'en les ayant mis devant un film pendant une heure et demie, leur éducation est faite. Mais parce que ce film viendra à l'intérieur d'un projet que vous lisez, que vous aurez accompagné la projection de ce film, que vous aurez vécu, entendu, relu des choses, que vous aurez entendu des questionnements, que quelques mois plus tard, vous aurez fait référence à cet événement-là, que vous aurez fait des ponts avec tout ce qu'ils peuvent vivre, alors à ce moment-là, la qualité éducative entrera et sera effective. Mais ne confondez pas éducation et information, et parfois c'est tentant, surtout sur des sujets un peu délicats. Donc la question du temps, et le deuxième élément, c'est la question de la confiance. Je veux dire par là que votre qualité d'éducateur vous oblige à créer les conditions dans lesquelles peut se dérouler la qualité, une bonne qualité de réception de la proposition éducative qui est la vôtre. Ça veut dire que vous devez avoir confiance, ce n'est pas qu'ils aient confiance en vous, c'est que vous devez avoir confiance dans la capacité des jeunes à grandir. Vous devez travailler cette confiance-là, le regard que vous portez sur eux. Et parce que vous avez confiance dans la capacité des jeunes à grandir, y compris dans ce domaine-là, alors ils verront à travers votre regard leur propre aptitude à grandir. Ils auront confiance en eux pour faire le pas qui leur permettra d'avancer sur le chemin de la vie adulte qui n'est pas forcément tout à fait enviable quand on a 13 ou 14 ans. Et puis cette confiance, elle impose aussi que vous sécurisiez le cadre dans lequel se déroule l'ensemble de vos propositions. Et dans le domaine strictement affectif, relationnel et sexuel, la question de la sécurité est absolument primordiale et essentielle, sécurité psychologique dans laquelle ça se déroule, de manière à ce que le questionnement, la réalité de ce qui est vécu ou de ce qui n'est pas encore vécu ne soit pas imposée et ne mette pas en danger le jeune dans la propre conception qu'il a de lui-même et dans son développement. Comment faire ? Je vous ai dit, je n'ai pas la recette, et je crois que ça ne relève pas de recette, mais quand même, un élément clé, c'est l'équipe. Si vous êtes dans une équipe éducative, si vous vous donnez les temps pour relire l'action qui est la vôtre, si vous donnez des temps pour prier l'action qui est la vôtre, si vous donnez des temps pour apporter un esprit critique entre vous, de manière bienveillante et fraternelle, alors vous garantirez autant que possible les conditions de votre projet éducatif. Voilà pour le E, assez rapidement, il vous en a été dit aussi quelque chose ce matin par Paul. Un petit point maintenant sur la question de l'affectivité. L'affectivité, c'est permettre, et c'est ce que je vous propose là, en reprenant une expression propre aux catéchèses de Jean-Paul II, rendre visible l'invisible. Et j'ai rajouté, en écoutant Paul ce matin, repérer et nommer. Là, il s'agit bien d'un acte éducatif, c'est-à-dire d'un apprentissage qui s'accompagne. Vous êtes non pas celui qui sait, mais celui qui permet que ce domaine éducatif de l'affectivité, qui est un domaine en évolution, qui est un domaine de la connaissance de soi et des autres, puisse trouver dans votre accompagnement, dans les propositions qui sont les vôtres, un lieu où s'exprimer, où s'apprendre, où s'expérimenter. Parce que vous l'avez repéré, l'expérience et le lieu dans lequel le jeune va construire son échelle propre de valeur. On y reviendra plus tard pour ce qui est de l'échelle de valeur, mais c'est parce qu'il aura expérimenté que la proposition est bonne pour lui qu'il continuera dans une proposition, qu'il prendra confiance en lui et qu'il suivra le chemin que vous lui montrez ou que vous lui proposez. Le point 3, le R, l'éducation relationnelle. Nous sommes assez pauvres en France, quoique ça évolue sur les dernières années, depuis une petite dizaine d'années. Je pense au Canada francophone qui a développé beaucoup plus que nous, pour l'instant, des outils pédagogiques sur cette question. Mais c'est déjà bien présent, notamment peut-être certains d'entre vous ont participé à des sessions de communication non violente, par exemple, ou de médiation et régulation. Voilà, ça, ce sont des éléments qui font partie de l'éducation relationnelle, où on apprend à des jeunes, et dès le plus jeune âge, dès la fin de l'école primaire et au début de collège, on peut tout à fait apprendre à des jeunes à ne pas mettre la main sur l'autre, à ne pas manipuler l'autre dans sa relation, à ne pas exercer un chantage dans la relation qu'on engage avec l'autre, que ce soit l'autre comme son père, enfin ses camarades, mais aussi au sein de la famille, mais aussi entre un jeune et un adulte. Et vous voyez bien que, en tout cas pour ce qui est des adolescents, évidemment ça change fondamentalement à l'âge adulte, même pour les très jeunes adultes. Vous voyez bien qu'à l'adolescence, le chantage est un mode ordinaire de relation. On ne peut pas simplement le condamner. Il faut apprendre à sortir sans risque de cet échange, de cette espèce de troc affectif. Si tu m'aimes, tu peux. Et si tu ne veux pas, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est un panneau ordinaire que les parents, évidemment, connaissent bien, mais ça demande une énorme résistance de la part des adultes parce que c'est extrêmement troublant, c'est extrêmement exigeant. Et puis, des fois, on a envie de dire « mais si je t'aime ?» Et donc, on est assez frustré de cette espèce de gap, de distance qui se pose et qu'il faut admettre. On est d'abord éducateur au service de la croissance de ces jeunes-là, quelle que soit sa fonction. Et donc, l'objectif de l'éducation, c'est de rendre le jeune autonome et non pas dépendant de nous. Ça veut dire qu'il faut qu'il parte. Et nous, on pourra dire, on l'a outillé pour partir, on l'a outillé pour grandir, on l'a outillé pour répondre à sa vocation, pour répondre au projet que Dieu a pour lui, formule pour lui. On l'a équipé pour qu'il entende ce projet et pour qu'il se lance joyeusement sur cette route qui lui est ouverte par Dieu, parce qu'on est voulu être de relation. On l'a très très bien entendu et largement ce matin. Notre corps est vraiment le lieu de l'expression de cette relation à l'autre. Et ça, même un très jeune peut le comprendre. Il ne s'agit pas d'un concept intellectuel. Voilà, des poils qui se dressent sur les bras à l'arrivée d'un camarade, ça se vérifie dès l'âge de 12 ans. Et voilà, ça se décrypte, ça s'analyse, ça se repère. Et parfois même, cette vocation, elle peut se célébrer. Et puis le dernier point, le dernier terme qui a été largement développé ce matin, je ne reviendrai pas dessus avec les pistes de la théologie du corps, par exemple, qui vous ont été données. Et je vais passer à la slide après, si vous voulez bien, merci. Voilà. Et là, je vous propose quatre lettres avec quatre chemins à explorer, mais toujours pas de gradation, c'est-à-dire je ne sais pas par où vous allez entrer, mais vous allez forcément entrer par un de ces chemins-là. Et moi, je vous propose de naviguer entre ces quatre points-là. Alors, le premier, le chemin, donc sans priorité, hein, le premier n'est pas le plus important ou le moins important des quatre. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas les mettre sur le même plan. C'est la question de l'éducation à l'amitié. Je me réfère là à plusieurs sources, mais particulièrement à un ouvrage qui m'a beaucoup marqué récemment. C'est un ouvrage du père Mendoza qui est sorti aux éditions Salvator que vous ne pourrez pas trouver à la librairie parce que Dominique en a été prévenu trop tard, mais vous le trouverez chez tous vos libraires et relais et libraires facilement puisqu'il est publié aux éditions Salvator. Il est publié en français. Ça s'appelle Le Petit Traité de l'Amitié. Et ça pose quelque chose qui, une fois dit et formulé, peut être une évidence, mais l'amitié n'est pas le stade inférieur de l'amour. Et pourtant, la question posée par des adolescents est souvent celle-ci. Puis-je avoir comme meilleur ami quelqu'un de l'autre sexe? Est-ce possible? Et ça, vous l'entendez extrêmement fréquemment. Vous entendez aussi ça dans l'accompagnement des fiancés. Voilà. Quel type de relation puis-je avoir avec mon futur conjoint? Est-ce qu'on peut devenir ami? Ben voilà, être ami et être époux, c'est deux choses de nature différente. Qui peuvent s'articuler, mais ce n'est pas quand on est très, très, très amis, ben on ne devient pas époux ensuite. Voilà, il n'y a pas une gradation naturelle. Parce qu'on est jeune, on est amis, puis quand on sera grand, on ne sera plus amis, on sera époux. Non, ça, ce n'est pas vrai. En revanche, l'amitié, c'est une autre voie que notre société nous a un petit peu bouchée avec la question de l'hypersexualisation de la société, avec ce passage par un érotisme de plus en plus violent. L'amitié, c'est une relation, et y compris une relation spirituelle. Pour ceux qui étaient présents l'année dernière, je m'étais appuyée sur le fait que le disciple est ami de Dieu et entretient une amitié avec le Christ. C'est-à-dire que c'est une relation qui se vit dans la gratuité absolue, sans aucun échange, sans aucun retour, ni attente de retour, qui se vit dans le temps, encore une fois, dans la fidélité qui s'éprouve dans le temps. L'amitié, c'est aussi le lieu par lequel je vais grandir dans ma relation à l'autre. Voilà, l'amitié avec le Christ, elle s'éprouve et elle s'entraîne dans la prière, par exemple, dans la vie sacramentelle, d'un autre exemple. L'amitié entre des camarades, elle s'éprouve dans des temps différents, le temps de la classe, mais aussi le temps des loisirs, mais aussi le temps du partage, d'un intérêt commun. Voilà, et que cette amitié-là, elle a des raisons d'être belles, justes et de fonder et de construire des êtres humains qui sont solides parce que l'amitié, c'est aussi ce sur quoi nous pouvons nous appuyer pour grandir. Donc voilà une piste à explorer. Je vous conseille cet ouvrage qui est en plus l'œuvre d'un poète. Hein. Le père Mendoza est aussi poète, connu pour ses livres de poésie. Donc voilà, c'est absolument un régal, ce petit traité de l'amitié. Autre voie qui, évidemment, n'est pas sans lien, l'éducation à la chasteté. Et là, on voit comment notre société a investi ce mot d'un sens extrêmement réducteur, qui n'est pas conforme au sens premier qui est le sien. C'est-à-dire qu'on entend, si on fait un micro-trottoir, alors à Orthez, à cette heure-là, un micro-trottoir, il n'y aura pas grand monde, mais si on va dans un lieu un peu plus passant, bah, chasteté, ça veut dire en fait abstinence. C'est ça que ça veut dire. Mais si on réinvestit ce mot du sens profond qui est le sien, c'est-à-dire la juste distance au nom de l'amour que j'entretiens avec moi, avec l'autre et avec Dieu, là, on ouvre une voie, on ouvre une porte, on ouvre un chemin pour éduquer les jeunes. Et ce chemin, nous devons nous l'appliquer à nous-mêmes, adultes, en relation avec ces jeunes, en relation éducative avec eux. Il est tellement simple de mettre la main sur eux par ce qu'on appelle, justement, pas très chastement, les charismes propres. On dit ça. On dit, oh là là, celle-là ou celui-là, et il a beaucoup de jeunes autour de lui, c'est son charisme. Je ne sais pas si c'est exactement son charisme, si ces jeunes-là sont dépendants de cet homme ou de cette femme qui a tant de qualités. C'est son charisme si, au contraire, ça leur permet de grandir, ça leur ouvre des voies, ça leur parle de Dieu, là, oui. Il ne faut pas tout confondre. Et c'est très tentant, et vous le voyez sûrement autour de vous. Voilà, c'est le cas de gens qui sont en situation éducative, c'est le cas d'éducateurs, c'est le cas d'enseignants, ça peut être le cas aussi de leaders de groupe. Voilà, il faut être très vigilant à ça. C'est une tentation, une vraie tentation, je pense. C'est pour ça encore que la question du groupe, la question de la supervision peut être importante pour mettre, pour protéger, pour être vigilant les uns pour les autres, être garant les uns pour les autres d'une juste relation éducative chaste entre nous et vis-à-vis des jeunes, et leur montrer que là, il y a un chemin beau qui n'est pas au rabais. La crainte d'un jeune, et c'est tout à son honneur, c'est de vivre au rabais. C'est pour ça qu'il va tenter des choses extrêmes. Mais si on leur manifeste par notre propre vie, par notre propre recherche, que cette question de la chasteté, par exemple, au contraire, c'est un vrai risque qu'on prend dans notre société, que ce risque, il vaut le coup parce qu'il est beau, parce qu'il est vrai, parce qu'il noue des relations qui sont durables, alors on leur offre une voie qu'ils peuvent suivre en trouvant que ça demande une sacrée énergie et que si c'est bien à cet âge-là qu'ils en ont, il faut qu'ils en profitent. Troisième point que je peux vous proposer, c'est la morale des vertus. Pour ça, j'ai une illustration qui ne parlera qu'aux marins. Alors, je m'excuse pour les autres, mais je vais la décrypter. Ça, le petit schéma de droite rouge, ce sont des balises que vous trouvez en pleine mer pour signaler un danger. C'est une grammaire propre à la mer et qui, selon la manière dont elle est construite, hein, soit un petit tabouret, soit une construction avec un chapeau, soit un poteau, elle ne dit pas la même chose, mais à chaque fois, elle dit voilà par où on doit passer pour être en sécurité. La balise, elle est donc elle est fixe, c'est-à-dire que elle bouge avec le courant, pas avec le courant, mais avec les vagues, parce que sinon elle casserait à cause de la force du courant, mais elle va très 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 profond avec un socle en béton de manière à être infiniment stable, parce qu'il n'est pas question de risquer la vie des navigateurs avec une balise qui serait mal fixée et qui ne pourrait pas signaler le danger. C'est cette image que je prends moi lorsque je propose d'éduquer à la morale et notamment de réinvestir la question de la morale au sens le plus noble du terme et non pas comme une petite sagesse populaire qui serait transmise au comptoir des cafés comme une fable ou quelques phrases à apprendre par cœur qui seraient assez éloignées de la réalité, mais bien au contraire de réinvestir ce terme de toute sa puissance éducative. Et notamment de poser qu'on a beaucoup utilisé le terme de valeur parce que le terme de vertu était désuet. Un petit côté ringard, la vertu c'est quelque chose pour les anciens, une demoiselle de vertu, peut-être certains d'entre vous savent ce que c'est assez péjoratif dans la bouche aujourd'hui de ceux qui le prononcent. C'est tout à fait injuste. La différence que je fais entre valeur et vertu, c'est que la valeur est négociable. En fonction de mon intérêt, en fonction du contexte dans lequel je me trouve, voilà, je peux déplacer un peu le curseur. Alors, je vais vous prendre un exemple actuel qui n'est pas caricatural. C'est voilà, la vie est une valeur de type valeur universelle. Et là, qu'on soit croyant, chrétien, catholique ou non, on peut s'accorder pour dire que nous avons des valeurs communes, la vie. Bon, pourquoi pas ? Mais quand on parle du début de la vie, ah ben là, on ne parle pas tous de la même chose. Là, le curseur bouge. Et ça, c'est cette valeur, elle devient une non-valeur ou elle devient négociable ou non. Pareil quand on parle de la fin de la vie. Vous voyez bien tous les débats qui secouent nos sociétés sur les questions qu'on appelle éthique. Éthique et morale, hein, c'est la même racine. Hein. Voilà, c'est deux termes qui ont été utilisés en philosophie de manière différenciée, mais au début, qui se réfèrent exactement au même concept. Hein. Certains renvoient à des pratiques, d'autres plus à un contexte, mais sinon, c'est exactement la même chose. Et donc, moi, je dis, quittons le vocabulaire des valeurs, pour l'instant, pour reprendre la question des vertus comme ses balises. C'est-à-dire, c'est la chose qui est stable, qui n'est pas soumise à négociation. C'est la liberté qui s'exprime ensuite d'y adhérer ou pas. Et à nous d'outiller les jeunes pour qu'ils puissent exercer cette liberté dans l'adhésion à cela. Mais on ne peut pas bouger le curseur en fonction de ce qui nous arrange, en fonction de son histoire particulière ou du contexte dans lequel on se trouve. Le chemin est là. Et uniquement là. Il n'est pas question de condamner ceux qui, par hasard, s'en éloigneraient. Il est question de montrer le chemin. Et puis, dernier élément de voie que je vous propose, c'est le soutien à la parentalité. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Soutien à la parentalité en ce que les parents sont les premiers éducateurs des jeunes. Les parents sont démunis et sont, parmi vous, il y en a qui sont parents. Ils l'ont exprimé tout à l'heure. Il est parfois plus simple de parler de ces questions-là, comme on dit, avec des jeunes qui ne sont pas ses enfants, avec ses propres enfants. Voilà, et ça s'entend tout à fait. Ce n'est pas parce que c'est plus simple ou plus compliqué à la maison qu'il faut en faire l'impasse. Et comment on s'équipe ? Comment on équipe les parents ? Comment on leur permet de donner des mots ? Comment on leur permet de se doter de moyens pédagogiques pour pouvoir accompagner son enfant sur ces questions-là ? Sachant qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une génération de parents, les jeunes parents, donc les 35-45, qui sont là, sont pour une part eux-mêmes déjà, ont déjà été enfants de parents mal outillés en la matière. Et donc, ils sont non seulement démunis, mais n'ont pas l'expérience et n'ont pas les capacités ou les aptitudes que dont nous a témoigné ce matin Paul, voilà, de prendre du recul, de relire ce qu'on a vécu ou pas, qui nous a manqué ou pas, et puis de prendre les moyens pour pallier ces manques lorsqu'il s'agit de manques. Donc il est urgent d'accompagner les parents, y compris les parents des adolescents, pour qu'eux-mêmes soient un tout petit peu mieux formés pour eux-mêmes, en tant qu'époux ou en tant que pas époux, mais en tant qu'adulte, pour ensuite entendre le questionnement de leur enfant et les propositions qui sont les vôtres. Voilà les quatre pistes, les quatre chemins que je vous propose d'explorer. Et je vous propose ensuite, et ce sera mon dernier point, oui, j'ai bien regardé l'heure, quatre priorités à poser. Fernand, s'il vous plaît. Voilà, vous allez voir, se former. Je crois que la formation est vraiment le meilleur lieu par lequel nous pouvons répondre à l'ensemble des éléments que j'ai posés. Mais attention, un, la formation n'est pas en contre-projet. Ce n'est pas parce que les autres ont tort, c'est parce que c'est important pour moi. La formation ne donne pas accès à une méthode qui, elle, aurait raison de tous les défauts des autres générations. La formation est différenciée en fonction de son âge, de sa fonction et de son statut. Et enfin, la formation se vit dans une perspective de croissance spirituelle. Parce que l'ensemble des éléments qui forment l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, les quatre points manifestés par ces quatre initiales, sont autant de dimensions qui font un homme ou une femme libre, capable d'être au milieu de ses frères, de servir les plus petits, d'entretenir avec Dieu une relation libre, consciente, joyeuse, de répondre à ses appels et de le recevoir dans les sacrements. La question de la formation, elle est pour tous, elle est adaptée, évidemment, et elle n'est pas le préalable à votre responsabilité. Autrement dit, si vous êtes mal à l'aise avec ces sujets-là ou ces questions, ne vous dites pas « je vais aller me former, donc je laisse l'affaire pour l'instant, je ne m'en occupe pas, et je reviendrai quand je serai un expert de la question ». Tout notre objectif avec l'équipe du père Dominique Nalis, avec Paul aussi, de dire « ce n'est pas l'affaire des spécialistes ». Il y a besoin de spécialistes sur certaines choses, mais c'est l'affaire de l'Église entière qui s'empare de cette question qui relève de la vocation propre de l'homme et de la femme. Donc n'attendez pas d'être des experts, ne soyez pas des experts, ou alors des experts en humanité, mais pas dans celle que parlait tout à l'heure Al Pacino. Voilà. Et je crois que j'ai fini pour les quatre points que je voulais vous donner pour respecter les horaires. Merci.